Bonjour à tous, merci mes musiciens, tout le monde va bien ce matin. Oui. Que Dieu bénisse Alexia qui n'est pas très très bien ce matin. Eh bien, nous allons faire une lecture dans Philippiens 3:3. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Alors, il faut savoir que les chiens, ces mauvais ouvriers dont la Bible parle, sont vraisemblablement des judaïsants, des chrétiens d'origine juive qui croient à tort que pour être sauvés, les non-juifs doivent se conformer à toutes les lois de l'Ancien Testament, et en particulier au rite de la circoncision. En fait, c'est de l'orgueil spirituel qui motive nombre d'entre eux. Ils ne peuvent pas admettre que tout le temps et tous les efforts qu'ils ont consacrés à respecter la loi ne servent à rien pour le salut. Alors Paul le leur reproche, il leur reproche de prendre le christianisme à rebours. Ils pensent en effet être sauvés par leurs œuvres. La circoncision, c'est donc une opération physique, vous savez, plutôt que par le don gratuit de la grâce de Dieu en Christ. Les œuvres des croyants sont le résultat de la foi. Elles n'en constituent jamais le préalable. On n'est pas sauvé parce qu'on fait des œuvres, mais on fait des œuvres parce qu'on est sauvé. Et on est sauvé parce qu'on a la foi. C'est ce que les premiers responsables de l'Église ont affirmé au Concile de Jérusalem 11 ans plus tôt. On peut voir ça dans Actes chapitre 15. Et de nos jours, qui sont les judaïsants? Eh bien, ce sont tous ceux qui prétendent qu'il faut ajouter quelque chose à la foi. Personne n'est autorisé à modifier l'offre du salut par grâce au moyen de la foi. Il est facile de mettre plus d'accent sur l'effort humain que sur la foi, mais c'est l'attitude de cœur que Dieu regarde d'abord. Veillons donc à ne pas évaluer la spiritualité d'une personne en fonction de ses succès ou de son niveau d'activité. Ne pensons pas pouvoir satisfaire le Seigneur en travaillant fiévreusement. Il sait tout ce que nous faisons pour lui et nous récompensera non seulement si c'est en réponse au don gratuit du salut que nous agissons. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont du succès sont pas des gens de Dieu, comme certains le disent, mais que ceux qui ont beaucoup d'activités pour le Seigneur ne sont pas des gens de Dieu. On fait les choses pour Dieu et Dieu nous accompagne de succès parce que nous avons la foi en lui, nous avons foi que nous sommes sauvés, nous avons foi que nous sommes avec lui et c'est pourquoi il bénit nos œuvres. Il bénit l'œuvre de nos mains. Ça, c'est clair. Il faut que ça soit très clair parce que beaucoup de gens pensent « Ah, si je fais ça, je serai plus agréable à Dieu. » Non, non, on est agréable. Le seul péché grave, c'est de ne pas avoir la foi. Tout ce que tu fais à côté, tu peux aller en enfer avec. C'est pas important. Ce qu'il faut, c'est avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est tout ce que tu peux faire, c'est inutile. C'est clair. La foi en Dieu, c'est la réponse aux situations impossibles. Si c'était pas vrai, si c'était pas comme ça, eh bien, la foi ne serait pas la foi. Notre recours le plus puissant qui soit dans l'univers, c'est le bras agissant de Dieu. C'est le secret des chrétiens. Un chrétien, il place sa confiance dans une autre dimension. Nous ne sommes pas comme les gens qui placent leur confiance en eux-mêmes ou dans les autres uniquement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire confiance aux autres ou qu'il ne faut pas se faire confiance à soi-même. Il y a des choses où on peut quand même se faire confiance. Vous n'êtes pas en train toujours de besoin d'avoir la foi pour faire les choses. Nous avons des choses que nous savons faire et nous savons très bien les faire et parce que nous avons appris à les faire. Mais lorsque la situation est impossible, alors nous avons un autre recours, celui de la foi en Dieu qui agit. Dieu nous porte et nous nous reposons sur lui. Maintenant, lisons quelle est la position des gens qui croient en Dieu à leur façon. On va lire ça dans Ésaïe, chapitre 46, verset 4. Ésaïe 46, 4. Voilà ce qu'il dit. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir, vous préserver. À qui me comparerez-vous pour faire de nous les égaux? À qui me ferez-vous ressembler pour nous assimiler? Les gens essayent de trouver des substituts à Dieu. Nous, on fait confiance à Dieu. On n'a pas besoin de trucs, de statues, de gestes plus ou moins magiques, de signes de ceci, de signes de cela. Vous voyez la différence. Dieu nous porte vraiment et il bouge. Et il fait bouger les choses parce qu'il est vivant. Il fait bouger les gens parce qu'il est vivant. Il va faire bouger tout l'univers pour que vous arriviez à faire et à être ce que vous avez décidé d'être et de faire par la foi en lui. Il édifie votre famille, il édifie votre communauté, il édifie vos affaires. Quand Dieu agit, tout bouge. Il nous porte et on sent que quelque chose se passe. L'autre jour, je regardais le chien et je voyais qu'il avait des puces, pauvre bête. Quand il change de place, les puces changent de place aussi. Si elles sautent en bas le chien, d'un coup, elles se retrouvent dans un endroit, elles ne savent pas où elles sont. Et il peut nous arriver, à nous aussi, d'être portés par Dieu, et Dieu bouge, et puis voilà qu'on se retrouve dans un endroit complètement spécial auquel on n'avait pas pensé. Hein? On sent que quelque chose se passe quand on est porté par Dieu. On peut lire en Corinthiens 13, 12. En Corinthiens 13, 12. Voilà ce que Paul dit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Il faut savoir qu'à l'époque, les miroirs, ils n'étaient pas comme aujourd'hui. C'était en général du bronze poli, plus ou moins bien. Et c'était pas... Donc il dit, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Paul emploie plusieurs mots, et on va regarder les mots qu'il emploie. À l'époque de Paul, donc, les miroirs. Et puis en fait, quand on se voit dans un miroir, on se voit à l'envers. Hein. Quand il est dit... Aujourd'hui, il parle de notre passage sur Terre. À présent, nous sommes sur Terre. Et on voit de manière un peu confuse les choses. Et quand il dit « alors », il se réfère à notre vie céleste, à notre vie éternelle, lorsque nous aurons quitté ce corps. À présent, aujourd'hui, tout est un peu confus, c'est vrai. Nous voyons par... la foi. Dans Hébreux, chapitre 2, 9, il est dit « Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. » Nous le voyons, mais nous ne le voyons pas avec les yeux, nous le voyons avec le regard de la foi. Nous le voyons par la foi, mais nous le voyons. Et par la foi, c'est une dimension que les inconvertis ne peuvent pas saisir, ne peuvent pas comprendre. Pour eux, c'est comme si je parle de grimoire d'Harry Potter, quoi. C'est un autre monde. Dans 2 Corinthiens 6, 7, il nous parle de ça. 2 Corinthiens 6, 7, c'est parce qu'on a déjà lu ça. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, donc loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est pas qu'on est loin du Seigneur, on est loin dans le sens que, bon, c'est vrai, on le voit pas, mais on le voit par la foi. Un jour, je me rappelle, Raphaël, il racontait toujours une histoire d'un enfant qui avait une ficelle, et puis avec un cerf-volant, et puis un monsieur qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec ta ficelle ?» Parce que le cerf-volant était monté tellement haut qu'il était parti dans les nuages. Il dit « Ben, je m'amuse avec mon cerf-volant. » Il dit « Mais t'as pas de cerf-volant. » Il dit « Si, un cerf-volant au bout de ma ficelle. Je le vois pas. » « Ben non, vous le voyez pas, mais moi je le sens. » On a un sens, n'est-ce pas, par la foi, on a un sens que les gens de ce monde n'ont pas. Quand Paul dit « alors », c'est-à-dire quand nous aurons quitté cette dimension limitée par la matière et le temps, la foi fera place à la vue, c'est-à-dire que nous verrons, nous connaîtrons comme nous avons été connus, nous le verrons face à face. Et pour le moment, à présent, nous connaissons en partie, et parce qu'on est limité par nos facultés. Vous avez des gens qui sont très intelligents, mais ils sont quand même très limités dans leurs facultés, parce que pour voir Dieu, il faut la foi. On peut pas le voir autrement. Mais alors, nous connaîtrons sans limitation, quand nous le verrons face à face. Laissez-moi vous dire qu'à présent, on est un petit peu comme des chenilles qui rampent sur la terre. J'aime pas trop voir ces bestioles-là, mais je les laisse, hein, je les écrase pas comme les araignées. Nous allons devenir des papillons, hein, nous allons découvrir des grands univers, des espaces que la chenille ignore. Il y a beaucoup de chenilles qui savent pas et qui sont incapables même d'imaginer qu'il y a autre chose que la vie de chenille. Vous avez des gens qui disent « Non, après la mort, il n'y a rien. » Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils ne peuvent pas imaginer. Voilà, ça les... Aucune de ces distinctions n'existe réellement. De quoi je parle là? Nous faisons des distinctions par ce que nous voyons. Mais c'est la foi qui fait la différence. C'est la distinction la plus élémentaire entre le croyant et le non-croyant, la foi. Le monde entier se tient soit d'un côté, soit de l'autre. Il n'y a que 2 catégories de personnes, et ça n'a rien à voir, ce ne sont pas les riches et les pauvres, les noirs et les blancs, les savants ou les ignorants, les femmes et les hommes. Non, ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. Aucune de ces distinctions n'existe réellement aux yeux de Dieu. Il n'y a que les croyants et les incroyants. Et Jésus dit, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Parce que ne pas croire, c'est insulter Dieu. Ne pas croire ce que Jésus a fait sur cette croix, c'est insulter Dieu. Il l'a fait pour nous sauver. Il l'a fait à notre place, c'est ce que nous méritions à cause de nos péchés. Et si on ne croit pas ça, eh bien on l'insulte. Et si on ne se repent pas à temps, celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus est clair. Il nous avertit, il est gentil. Il pourrait très bien ne pas le dire, et puis qu'on ait des très mauvaises surprises à la fin. Mais non, le livre, la Bible nous dit tout. Dans Marc chapitre 16, verset 16. Ne pas croire, ne pas lui faire confiance, c'est le plus grand péché. Personne ne sera condamné pour les péchés qu'il a faits, parce que Jésus a pardonné tous les péchés, à la croix les péchés de tous, mais c'est pour ceux qui croient. Donc, celui qui ne croit pas dans son sacrifice, eh bien, c'est ce péché-là qui fait qu'il sera perdu. C'est clair ? Non, ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre de faire n'importe quel péché. Quand on est croyant, on fait attention parce qu'on aime Dieu. La foi, elle appartient à une nouvelle dimension, quelque chose qui n'existait même pas vraiment du temps de Moïse. Bien sûr qu'il fallait avoir foi en Dieu, il fallait croire qu'il existe, mais on était sauvés par les œuvres, par ce qu'on faisait. Et si on faisait quelque chose qui n'était pas bien, il fallait faire un sacrifice, il fallait offrir un veau, un pigeon, une colombe. Maintenant, le sacrifice, il a été offert une fois pour toutes, c'est Jésus, c'est offert en sacrifice, et c'est un sacrifice qui est valable pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous les enfants. Si tu y crois, tu es sauvé, tu ne crois pas, tu es perdu. L'incrédulité appartient à la dimension qui est appelée à disparaître avec les incrédules. Alors que la foi, elle va disparaître, mais ceux qui ont la foi ne vont pas disparaître. Ils vont vivre éternellement. C'est la différence. C'est la différence. La foi, c'est la ligne de démarcation tracée parmi l'humanité. Avoir la foi ou non est l'alternative à notre manière d'appréhender la vie. La foi, c'est pas juste « oui, je crois ». Non, c'est pas ça. C'est comment on vit, la façon dont on vit. La crainte, elle voit ce que l'homme voit. La foi, elle voit ce que Dieu voit. Si Dieu dit ça, c'est pas bien, même si on comprend pas, c'est pas bien. Voilà. Même si on comprend pas. Un enfant, je me rappelle toujours, Raphaël aussi racontait l'histoire d'un papa qui était en bas des escaliers de la cave, il était tout noir, et le papa lui dit « saute ». Il dit au gamin « saute, je te retiens ». Le gamin, il n'hésite pas, il saute, et son père le rattrape. Mais vous mettez le même gamin 10 ans plus tard, il saute pas. Hein. Il dit « est-ce que tu vas vraiment me rattraper ?» Il réfléchit, il commence à avoir des doutes. Ils croient intelligents. La foi voit ce que Dieu voit. La foi, elle engendre des actions comme Caleb et Josué qui sont revenus après avoir été espionnés le pays. Moïse leur avait dit à plusieurs d'aller espionner le pays d'Israël pour voir ce qu'il y avait. Ils sont revenus, ils ont été positifs. Et puis les autres ont dit « oh non, c'est pas possible, c'est trop dangereux, on va pas y arriver ». L'incrédulité nous maintient dans un désert spirituel comme Israël l'a été pendant toutes ces années à cause de leur incrédulité. En fait, ils sont tous morts, ces gens-là, et il n'y a que Caleb et Josué qui sont rentrés dans le pays de la promesse. C'est énorme quand même. C'est pour nous montrer que la foi, ça fait la différence. La crainte et le doute, ça amplifie les difficultés. Quand vous avez des doutes, les difficultés deviennent des montagnes. Ça, Jésus dit, avec la foi, vous transportez des montagnes. Par la foi, nous passons du minimum au maximum dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Vous savez, Dieu est le garant de son propre plan. Il a un plan. Il exécutera de toute façon, mais nous devons savoir quels sont les objectifs que Dieu veut atteindre. Et pour ça, nous avons ce livre. Là, j'ai regardé un film, je ne me rappelle plus le titre, c'est sur Disney+. Et il y a un vieux livre, c'est un vieux grimoire, avec des secrets dedans, etc., etc. Nous avons aussi un vieux livre, un très vieux livre. Et dans ce livre-là, dans la Bible, nous avons tout le plan de Dieu. Alors, il est un peu caché, parce qu'il ne faut pas que tout le monde puisse connaître. Il faut que ceux, comme dit Jésus, ceux qui ont des oreilles entendent. ce que l'Esprit dit à l'Église. Il y en a qui ont les oreilles qui n'entendent rien. Parce qu'aussi, ils n'ont pas intérêt à entendre, ils ne veulent pas entendre. Nous devons nous occuper d'une chose primordiale, entrer dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu qui est écrite. Une fois que vous connaissez le plan de Dieu qui est écrit, et puis on en découvre toujours un peu plus, eh bien vous allez de l'avant avec lui. Une fois que vous vous êtes engagé dans ce qu'il a entrepris dans son plan, ça fait déjà un bon bout de temps que ça marche ce plan, hein, eh bien une fois que vous êtes entré dans ce plan, vous êtes autorisé à revendiquer par la foi ce dont vous avez besoin pour faire sa volonté. Vous êtes autorisé. C'est pourquoi il dit, si vous demandez une chose selon ma volonté, je vous le donnerai. On ne va jamais demander une chose mauvaise. Dieu ne veut pas des choses mauvaises pour nous ni pour personne. Il répond en puisant dans les réserves qu'il a, des réserves abondantes, et il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons demander à Dieu de pourvoir à tous nos besoins, même pas seulement nos besoins, mais même nos désirs. Même nos désirs. Aussi longtemps que nous agissons selon sa volonté. Si on n'agit pas selon sa volonté, il n'est pas tenu d'exaucer nos prières. Alors la foi, c'est une valeur sûre. Les gens de ce monde, ils dorment et ne se rendent pas compte de ce qui va arriver, ils ne savent pas. En ce moment, on entend parler du Mali, du Burkina, du Nigeria. Il y en a qui disent la France est foutue, la France est foutue. Ils oublient que avant la colonialisation, on était déjà un peuple très combatif et qui construisait déjà des choses extraordinaires qui tiennent toujours debout. Je me rappelle, je faisais visiter à des passeurs africains la cathédrale de Chartres et je leur dis, voyez, là vous êtes en train de marcher sur la tour tout en haut. Cette tour, elle a 800 ans. Quoi ? Je dis, oui, ça fait 800 ans que ça a été construit. Alors que eux, là, ces pauvres petits pasteurs, ils vivent dans des cases avec des tôles. Et encore, ça fait pas très longtemps qu'ils ont des tôles, parce qu'avant, ils avaient des toits en chaume qu'il fallait changer sans arrêt, parce que sinon, ben, la terre avec laquelle ils fabriquaient leur maison, elle s'effondrait. Et maintenant, ils ont trouvé des tôles. Mais c'était toute une histoire, parce que les tôles, c'était un truc de blanc. Alors, c'était un truc mauvais. Donc, ceux qui avaient des tôles, ils étaient mal vus. Et le papa de Nicolas était un des hommes qui s'est battu pour que il y ait des tôles sur les toits de ces baraques en torchis. Hein, c'est la colonisation de l'Afrique, ça date de 1850, je crois. Mais Versailles a été construit quand ? Hein, en 1500 et quelques. Vous avez vu tout l'or qu'il y a dedans ? On n'a pas été le chercher en Afrique, on ne savait même pas où il y avait de l'or en Afrique. Donc, voilà, faut arrêter de dire la France est foutue, mais même si elle est foutue, elle n'est pas foutue pour ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi s'en sortiront toujours. C'est vrai qu'on va vers des moments difficiles, mais ceux qui ont la foi s'en sortiront toujours. La foi, c'est une valeur sûre. Il y en a beaucoup qui vont se réveiller au dernier moment, et puis d'autres qui vont continuer dans leur folie à vivre n'importe comment. Et une de nos tâches, c'est de faire connaître le plan de Dieu. C'est de dire aux gens, voilà, le plan de Dieu, ce que c'est. Ceux qui n'en veulent pas, ben, le regretteront amèrement. Comme dit La Fontaine, mais un peu tard. Et ceux qui veulent prendre connaissance de ce plan, ils se mettent à le vivre. Et même si c'est au dernier moment, la Bible dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Et ben, Dieu ne fait pas de différence. Si tu te décides aujourd'hui à suivre le Seigneur, il va te prendre en main, il va te porter. Et tu seras bien conduit et tu ne manqueras de rien. Et tu seras transformé à l'image de Dieu, tu participeras à la gestion des nouveaux mondes qu'il va créer. La Bible dit qu'il va détruire cette terre. Je me rappelle d'un frère qui s'appelait Renaud, qui vivait avec nous, et qui disait, « Oh, mais quand même, Dieu va pas détruire Paris, c'est trop beau. » Mais si, il va détruire, il va tout foutre en l'air. Bien sûr, il l'a dit, il va le faire, ça fait partie de son plan. Pas que Paris, hein, mais tout. La terre sera roulée comme un vieux vêtement, jeté au feu, le ciel, tout ça sera rouge. Ça va disparaître, et on va créer avec lui des nouveaux cieux, des nouvelles terres qu'on aura gérées. Ça va être magnifique, et puis on n'aura plus le diable pour nous mettre des bâtons dans les roues, puis on n'aura plus tous les suppôts de Satan qui viennent nous embêter, et ça n'existera plus, le mal n'existera plus. Il fallait que ça existe pour que le bien soit magnifié, mais maintenant qu'on a vu la différence, que l'histoire existe, c'est terminé. Vous me croyez? Eh bien, c'est bien, c'est parce que le Saint-Esprit vous a révélé quelque chose. Vous me croyez pas? Ben, c'est vous qui fermez la porte. Ça vous regarde. Ça ne me regarde plus, je vous l'ai dit. Maintenant, ce que vous pouvez faire, si vous me croyez, c'est de vous repentir. Se repentir, c'est pas dire, « Oh Seigneur, je te demande pardon, c'est ma faute, c'est ma très grande faute », puis continuer. Non, se repentir, ça veut dire se convertir, c'est regretter profondément d'avoir fait quelque chose qui n'était pas dans le plan de Dieu, et puis se convertir, c'est-à-dire changer de route. Hein, si vous trouvez une mauvaise route, et puis que tout à coup vous voyez qu'il y en a une belle, vous changez de route. Ben, vous allez changer de route. Se convertir, ça veut dire changer de route. Voilà. C'est ce qu'il faut que vous fassiez. Sérieusement. Si vous le faites pas, ça vous regarde. Moi, j'ai fait ce que je devais. Toute ma vie, je me suis consacré à dire aux gens toujours les mêmes choses. Repentez-vous. Parce que les temps deviennent difficiles et ça devient de plus en plus difficile. Là, en Afrique, ça peut péter du jour au lendemain, ça peut encore attendre. On ne sait pas. Comme dit l'apôtre Paul, on connaît en partie, mais Dieu connaît le plan. Mais le jour où ça va péter, ça va bien péter. Et il faudra vraiment être du côté de Dieu. Et Jésus dit que pour ceux qui sont à lui, il les enlèvera de sorte, parce que sinon personne ne pourrait être sauvé. Tellement que ça va être grave. Alors là, je vous l'ai dit, c'est dit, vous l'avez entendu, vous en faites ce que vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Jésus, je te prie pour ces personnes, ceux qui veulent se repentir, ceux qui veulent se convertir, qu'ils le fassent sans hésitation, sachant que tu es bon, que tu veux notre meilleur, que tu l'as prouvé. Des milliers de fois, il suffit de regarder l'histoire de cette terre. Nous te prions, Seigneur Jésus, que tout ennemi ait la bouche fermée devant toi et que chacun, au jour de ton retour, reconnaisse que tu es Dieu, le seul vrai Dieu. Et je te prie qu'un maximum de ces personnes puissent être des gens qui se soient mis en ordre maintenant, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Au revoir. À bientôt.